Je vous invite à une scène de prière qui se trouve en Matthieu, chapitre 26. Pendant que vous cherchez, je vous rappelle quelques scènes que nous avons découvertes au travers d'Exode 17. Ce passage nous mettait en évidence l'opposition des forces spirituelles quand le peuple, quand l'homme, quand la femme se met en prière, l'opposition des forces spirituelles. Nous avions vu en Luc chapitre 9 la nécessité également, lorsque nous prions, de s'attendre à la révélation de la gloire de Dieu. C'est plus connu sous le nom de la transfiguration. Il nous est bien dit dans le texte qu'ils virent la gloire de Jésus. Et nous avons besoin, lorsque nous prions, dire « Seigneur, renouvelle mon regard sur ta personne. J'ai besoin de voir ta gloire. » Les disciples avaient déjà connu, vu des miracles et des prodiges, mais là, ils ont vu Jésus comme jamais ils ne l'avaient vu. Dans 1 Roi, chapitre 19, c'était la semaine dernière, nous avions vu qu'on a beau être un homme de Dieu exceptionnel comme Élie, on peut connaître des temps de découragement profond. Et la seule chose qui soit capable de nous ramener à cette communion avec le Seigneur, qui nous remet de la force dans notre marche, c'est quand notre oreille, non pas l'oreille physique, mais cette oreille spirituelle, se reconnecte avec ce murmure doux et léger de la voix du Seigneur. Amen. Et là, on est en Matthieu, chapitre 26, un moment intense. On va lire les versets 36 à 46. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux, avec ses disciples, dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez ? Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Gethsémané signifie « pressoir à huile ». La veille de sa crucifixion, dont Jésus était parfaitement conscient, voilà que Jésus emmène ses disciples dans ce lieu reculé. Et il éprouve le besoin de prier. On sait que Jésus a une vie de prière conséquente. Mais les évangiles nous montrent que Jésus prenait également des temps particuliers chaque fois qu'il avait un choix à faire, chaque fois qu'il connaissait un moment particulier dans sa vie. C'est peut-être la première déjà leçon à retenir pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à avoir une vie de prière régulière, constante. Mais nous sommes aussi appelés à savoir mettre du temps supplémentaire lorsque nous savons que nous avons des échéances, des missions, des choix particuliers, des circonstances qui sont devant nous. Jésus n'a pas effectivement choisi les 12 disciples. Alors il les appelle les 12, et puis je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il demande aux uns de rester là, asseyez-vous, et il va en prendre 3, le trio ordinaire, le trio qui était déjà avec lui sur la montagne de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. Et à eux, il dit, venez avec moi. Et il leur demande de veiller avec lui. Toutefois, ce n'est pas une réunion de prière ensemble. Jésus s'éloigne, il se met un peu plus devant et il prie. Ce n'est effectivement pas une scène de prière collective. Nous aurons l'occasion de voir d'autres scènes de prière en collectivité, ensemble, je ne sais pas quel terme employer. Mais on sent que Jésus éprouve le besoin de prier seul. Il y a des circonstances où on a tellement besoin. Et on a même l'impression que ce n'est que dans ce moment-là qu'on se sent vraiment en unité avec le Seigneur. Il est bon de prier ensemble, mais il y a cette vie d'intimité, ce cœur à cœur, et surtout dans ces moments difficiles où on a besoin de se retrouver juste lui et nous. Faisons attention également à faire la différence entre des temps de prière où nous sommes tout seuls et des temps de prière où nous sommes en commun. On ne peut pas prier ensemble comme on prie tout seul. Et on ne peut pas prier tout seul comme qu'on est en commun. Cela s'apprend. Et là, en l'occurrence, nous voyons que Jésus a ce besoin de prier seul. Il a ce besoin d'intimité. Il a ce besoin de prier. Et vous allez le voir, non pas pour tous, mais vraiment pour lui. J'étais surpris, il m'est déjà arrivé au moins 3 fois de discuter avec des chrétiens qui me disaient « Ah frère, vous savez, moi je ne prie pas pour moi. » Et la manière de le dire signifiait qu'ils étaient tellement spirituels qu'ils s'oubliaient complètement eux-mêmes pour prier que pour les autres. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui ne va pas. Nous sommes appelés à prier pour les autres, évidemment. Mais nous sommes et nous avons besoin de prier pour nous-mêmes. Nous avons besoin de prier pour nos âmes. Nous avons besoin de prier pour que nous soyons nous-mêmes fortifiés. Imaginez des footballeurs qui, préparant un match, ne font que étudier l'adversaire, le terrain, les circonstances, les stratégies des autres, mais qui oublient eux-mêmes de se préparer physiquement. N'aurait qu'un sens. Peut-être qu'ils connaîtraient tout sur leurs adversaires, mais eux-mêmes n'étant pas prêts personnellement, ne seraient pas à la hauteur du défi. Et nous sommes appelés également, dans la prière, à savoir prier pour nous-mêmes. Alors ils commençaient, et on va le revoir tout à l'heure, verset 37-38, il nous est dit que Jésus commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Incroyable. Jésus, celui qui a été oint d'une huile de joie au-dessus de tous ses égaux, lui qui est rempli de l'espérance divine, lui qui est rempli de la perfection, lui en qui il n'y a aucune trace de péché, de misère. L'angoisse que Jésus connaît, ce n'est pas l'angoisse du péché. Ce n'est pas l'angoisse de la conséquence du péché. Ce qu'il connaît, ce n'est pas la frustration de la chair. Tout ça, il est mort à tout ça. Pourtant, l'angoisse que Jésus éprouve, elle est lourde, elle est écrasante. Je pense que quand Jésus dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort », ce n'est pas seulement une image. Il y a effectivement un combat spirituel qui s'engage dans l'âme, dans le cœur de Jésus. Je le redis pour que les choses soient bien claires. Jésus n'éprouve pas un péché, un repentir. Il n'est pas en train là, d'exprimer qu'il n'est pas à sa place ou qu'il souffre de maladresse qu'il ait pu faire et qu'effectivement le salaire du péché c'est la mort et c'est ça qu'il n'exprime pas du tout. Nous sommes véritablement là dans un combat d'ordre spirituel. Et le diable est celui qui sèmera de l'angoisse dans nos cœurs pour nous pousser à faire les mauvais choix. Le diable est celui qui peut presser, et c'est pour ça que ce lieu s'appelle pressoir à huile. S'il y a bien une caractéristique de l'œuvre de Satan, c'est l'oppression. Il oppresse nos cœurs, et il est capable. Et c'est à nous de développer cette sensibilité et cette compréhension, mais ceux qui le connaissent comprennent ce que je suis en train de dire. Il y a des circonstances où notre âme est angoissée. Pourtant, ce n'est pas une angoisse humaine, c'est une angoisse qui est d'ordre spirituel. C'est une angoisse qui n'est pas là comme constamment sur nous, mais on sent qu'il y a là cette oppression, ce travail de l'intérieur. Soyons conscients que cela fait partie de la vie spirituelle. Et je pense qu'aucun de nous ne connaîtra la pression des angoisses telles que Jésus l'a connue. Ou un autre passage nous expliquera que l'angoisse était tellement forte que des grumeaux de sang sortaient de son front. Jésus a vécu ça, et nous savons que cela vient de l'ennemi de notre âme, qui est là pour nous déstabiliser, pour nous pousser à ne pas vivre ce que nous devons vivre. Et en l'occurrence, Jésus savait très bien qu'il devait aller à la croix. Il le savait, il est venu pour ça. Et là, le diable force, il oppresse le cœur pour que, effectivement, Jésus puisse formuler cette prière. « Oh, je reviendrai une prochaine fois. » Pas maintenant, reculons l'échéance. « Seigneur, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » La tentation, l'oppression est tellement là que la suggestion arrive. « Oh, seulement c'était possible que... » Le temps de la prière peut être un temps d'opposition spirituelle. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Notre victoire spirituelle se trouvera toujours dans notre obéissance à la volonté de Dieu. C'est en 1 Pierre, chapitre 3, verset 17, qu'il est écrit « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant ce qui est bien, qu'en faisant le mal. » Et c'est vrai que le diable voudra toujours nous mettre des pressions, de l'oppression, pour nous pousser à mal faire. Et Dieu, mais ça n'a aucun résultat. Parce que nous allons connaître l'oppression, et si nous péchons, non seulement nous allons faire le mal, mais en plus nous allons supporter les conséquences de ce mal, et en finalité, nous n'aurons rien gagné. Il vaut mieux souffrir en faisant ce qui est bien, car Dieu est le Dieu de la consolation, le Dieu de la récompense, le Dieu de la restauration, plutôt que de souffrir l'oppression pour finalement tomber dans le mal. Que le Seigneur nous aide dans ce sens. Le temps de la prière a été long, vous savez. Il nous est dit au verset 44 que Jésus les quitta et s'éloigna et il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles, sachant que la première fois, au verset 40, Jésus va faire ce reproche, mais vous n'avez pas pu veiller une heure. Si nous n'avons pu veiller une heure. Donc une heure fois trois, on va dire, si on peut imaginer, on n'a pas vraiment la notion de temps dans ce passage-là. Et comprenons qu'effectivement, le temps de cette oppression, le temps de ce combat spirituel n'a pas duré 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Même le Fils de Dieu l'a supporté, l'a subi. Et par trois fois, il est allé s'agenouillant, le visage prosterné contre terre, mais répandant son âme avec force. Et il n'était pas là dans un vagabondage d'esprit. Il avait véritablement l'âme, le cœur, tout l'esprit concentré sur ce combat spirituel. Cette angoisse Ce travail de l'âme n'est pas confortable, ça c'est une évidence. Mais reconnaissons aussi que ce travail de l'âme, on en a besoin. Reconnaissons qu'on a besoin de ce travail de ces angoisses. Pardonnez-moi de le dire, je ne parle pas des angoisses humaines, je parle de ces angoisses spirituelles. Car elles nous travaillent de l'intérieur, elles nous tuent de l'intérieur. Je ne parle pas de la nouvelle naissance, je parle du vieil homme. Elle nous amène à plus d'humilité, elle nous amène à plus de dépendance du Seigneur. Elle nous amène à moins s'appuyer sur nos capacités, sur nos forces, et véritablement, entièrement sur le Seigneur. Quand il y a ces angoisses, ces oppressions spirituelles, alors on ne cherche pas à se satisfaire des choses de la terre, mais on sait qu'il faut vraiment s'accrocher aux choses du ciel. Ces angoisses spirituelles ne sont pas là pour nous détruire, elles sont là pour nous sanctifier. Elles ne sont pas là pour nous faire tomber, elles sont là pour nous affermir en Jésus-Christ. Heureusement, elles ne sont pas si fréquentes, mais reconnaissons qu'elles participent à nos sanctifications. Les disciples ont du mal à suivre le rythme de Jésus. Si on le lit à partir du verset 40, Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et verset 43, « Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. » Alors Jésus les laisse dormir et au verset 45, il alla vers les disciples et il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposer. » Oui, les disciples n'ont pas été capables de veiller avec Jésus. Vous vous rappelez, lorsque nous avions vu cette scène justement sur la montagne de la Transfiguration, c'était pareil. Hein. Ils étaient là, Jésus les a invités à prier, et puis il s'est retrouvé tout seul à prier, et les autres, ils étaient là à moitié comateux, somnolents. Ils avaient juste les yeux mi-clos pour s'apercevoir qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait une transfiguration. Alors ils se sont vraiment réveillés. Mais... Et Jésus ne leur avait pas fait de reproche. Là, c'est plus pareil. Le reproche que Jésus leur fait est sans sévérité. Il n'est pas dur dans sa manière de parler, mais on sent quand même qu'il y a une pointe de déception. Hein. Sur la montagne, entre la montagne de la transfiguration et maintenant, les circonstances ne sont pas les mêmes. À la montagne de la Transfiguration, Jésus convie ses disciples, ses trois disciples à prier avec lui. Bon, il les trouve un peu endormis. Là, la circonstance n'est plus la même parce que Jésus leur a déjà prévenu. Il leur a prévenu qu'il allait souffrir. Il a prévenu qu'il y aurait du combat. D'ailleurs, eux-mêmes, les propres disciples, savaient qu'en allant à Jérusalem, ils risquaient même leur propre peau. Il y en avait même un qui dit « Oh, allons avec lui, allons mourir avec lui !» Et Pierre qui avait pris quelque temps avant cette résolution, « T'inquiète, ils vont tous t'abandonner, mais moi, tu peux compter sur moi, jamais je t'abandonnerai !» Pourtant Jésus avait prévenu, « On va frapper le berger, les brebis vont... »« Non, tu peux compter sur nous !» Donc les disciples étaient bien avertis que c'était véritablement la dernière nuit avant des circonstances difficiles. Et je crois que Jésus leur fait un peu ce reproche. C'est que malgré qu'ils soient prévenus, les disciples n'étaient pas aux aguets. Ils n'étaient pas prêts. Ils savaient qu'il allait se passer quelque chose de particulier, mais cela n'avait pas une incidence sur leur vie de foi, sur leur dimension spirituelle. Ils se sont préparés peut-être à un lendemain difficile, mais sans prendre en compte la dimension spirituelle de ce lendemain. Alors, ils n'avaient pas l'esprit veillant. D'ailleurs, ce sont les deux choses que Jésus leur demande. Veillez et priez. Et retenons pour ce soir cette recommandation du verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et ça, on peut dire amen. Non pas parce que nous cautionnons, mais parce que nous l'avons tant de fois expérimenté. Alors, apprenons demeurons ou apprenons, pardonnez-moi, à veiller. Veiller dans le dictionnaire, c'est porter une attention stricte, attentive. C'est véritablement une concentration. C'est être attentif, c'est avoir une vigilance sur un objectif à atteindre. On est veillant, c'est pas somnolent, c'est pas je garde juste les yeux ouverts, mais je reste concentré sur un objectif, je reste concentré sur un but à atteindre. Je veille à ce que les choses s'accomplissent conformément à l'objectif atteint. Veillons à l'enjeu spirituel de nos vies. Veillons à la cause et au but de notre engagement spirituel. Veillons à toujours rester là, conscient que notre vie spirituelle a une réalité dans ses forces occultes. Prions. Prions pour nous-mêmes. Pardonnez-moi de le dire en cette circonstance, mais c'est véritablement, je crois, la leçon à retenir. Prions comme Jésus. Jésus n'a pas eu une prière pleine de prétention. Jésus ne s'est pas senti plus fort que les circonstances qui seront devant lui. Non, Seigneur. Il le sentait, il sentait que c'était tellement fort qu'il aurait voulu. Ah oui, Jésus lui-même aurait voulu que ça ne se passe pas. Et il ne s'est pas dit, « Oh Seigneur, remplis-moi de force. » Il savait qu'il avait la force pour. De toute façon. Mais ce qu'il avait besoin, c'était de trouver le courage d'obéir. De temps en temps, dans nos prières, nous avons peut-être besoin plus de « Seigneur, apprends-moi à obéir. Apprends-moi à faire ce que tu me demandes. Apprends-moi à faire ce que tu me demandes simplement de faire. » Et bien souvent, dans nos vies, le Seigneur ne nous demande pas des choses qui soient au-dessus de nos forces. Et si vous avez déjà demandé de décrocher la lune, non. Par contre, plus d'une fois. Il nous a demandé des choses toutes basiques. Et nous n'avons pas été au rendez-vous. Veillons à prendre conscience de notre responsabilité spirituelle. Et apprenons, oui, et prions même pour nous-mêmes. Seigneur, apprends-moi à obéir. Apprends-moi à faire ce que tu me demandes de faire. Tu ne me demandes jamais de faire l'impossible. Peut-être que je peux en éprouver des angoisses, mais dans ces circonstances d'angoisse, Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Non pas ce que je veux, non pas ce que je ressens, non pas là, dans ma sensibilité personnelle, je ne veux pas me laisser déstabiliser, mais Seigneur, je veux faire ta volonté. J'accepte d'aller à droite quand tu me demandes d'aller à droite. J'accepte de me poser quand tu me demandes de me poser. J'accepte de parler quand tu me demandes de parler. J'accepte de fléchir le genou lorsque tu me le demandes. Prions pour que le Seigneur nous donne un cœur aguerri. J'ai découvert ce mot-là. Je connaissais ce mot-là, j'avais déjà entendu le mot aguerri, mais je ne savais pas trop ce qu'il voulait dire. Enfin, pour moi, c'était quelqu'un de courageux, de valeureux, mais c'est plus que ça. En fait, aguerri vient du mot guerre. Et donc, dans le dictionnaire, c'est écrit quelqu'un qui est habitué aux fatigues, aux périls de la guerre, accoutumé à des situations pénibles. Alors oui, je crois que c'est une bonne prière. Seigneur, apprends-moi à être aguerri. Apprends-moi à être habitué à la fatigue. Apprends-moi, s'il te plaît, à accepter le péril de ma guerre spirituelle. Apprends-moi à m'accoutumer à des situations pénibles. Parce que si nous ne prions pas dans ce sens-là, alors chaque fois qu'il y aura une circonstance pénible, nous fuirons. Chaque fois qu'il y aura une fatigue supplémentaire, alors non, on se reposera plutôt. Et nous serons toujours comme des enfants. Prions pour que Dieu nous rende capables, pour que Dieu nous rende endurants, pour que Dieu nous rende persévérants. Prions pour que Dieu nous rende forts. Prions pour que le Seigneur nous rende d'être prêts. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce n'est pas une si grande prière que ça. Mais lorsqu'il y a les angoisses, là ça change tout. Quand il y a des choix à faire, là ça change tout. Lorsqu'il y a là cette lourdeur sur nos âmes, cette incapacité, cette frustration, ce quelque chose qui nous prend de l'intérieur. Seigneur, apprends-moi à être aguerri. Apprends-moi à veiller sur l'importance de ma vie spirituelle et donne-moi d'être capable de faire ce que tu me demandes. De grâce. Alors voilà, cette quatrième leçon de scène publique, nous aurons encore d'autres si Dieu nous accorde encore quelques jours de vie sur cette terre. Amen.